Symbolic of their desire to solve their nation's problems jointly, they are seated side by side, together. Schumann is speaking.
L'Europe ne se fera pas d'un coup. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait.
Le marché commun du charbon et de l'acier devenait une réalité.
Vous écoutez la chronique européenne, une émission par mois pour décrypter l'Union européenne ensemble. Institutions, politiques, fonds européens et leur impact sur le quotidien. Tout ça avec l'association Maison de l'Europe et des Européens de l'An. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle émission d'Européens, votre rendez-vous mensuel pour décrypter l'Europe et ses différents sujets. Aujourd'hui, nous allons découvrir des choses sur la fête du travail. Nous allons aussi rencontrer Françoise Prudent, une bénévole active à la Maison de l'Europe. Et avec cela, nous aurons le plaisir de vous tenir informés de la dernière actualité européenne. Vous écoutez Radio B, la chronique de la Maison de l'Europe. Passons maintenant à notre rubrique d'actualité européenne. En 2024, les dépenses militaires mondiales ont enregistré leur plus forte augmentation depuis la fin de la guerre froide. Portée par des tensions géopolitiques, l'Europe en particulier accélère massivement son effort de défense. Selon un rapport de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, publié lundi 28 avril, les dépenses militaires mondiales ont connu en 2024 leur plus forte progression depuis la fin de la guerre froide. Elles ont eu une augmentation de 9,4% par rapport à 2023. Cette hausse, qui s'inscrit dans une tendance continue depuis 10 ans, reflète l'intensification des conflits et des tensions géopolitiques à travers du monde. Au total, plus de 100 pays ont accru leur budget de défense l'année dernière, souligne le rapport. Parmi toutes les régions, l'Europe se distingue par une envolée de ses budgets militaires. La situation géopolitique tendue, notamment avec la guerre en Ukraine, a incité de nombreux pays à accroître massivement leurs dépenses de défense. En incluant la Russie, les dépenses du continent ont bondi de 17% l'an passé, atteignant 611 milliards d'euros. En première ligne, l'Ukraine a vu son budget militaire progresser de 2,9% pour atteindre 64 milliards de dollars. Bien que cela représente moins de la moitié des moyennes russes, Kiev a enregistré les charges militaires les plus élevées au monde, avec 34% de son PIB dédié à la défense. Parmi les pays membres de l'Union européenne, c'est surtout l'Allemagne qui se démarque. Elle a augmenté son budget dans le secteur de 28%. Une hausse significative qui permet au pays du futur chancelier Friedrich Merz de devenir, pour la première fois depuis sa réunification, le principal contributeur militaire de l'Europe. Un classement toujours largement dominé par les États-Unis dans le monde. Les 32 membres de l'Alliance Atlantique, 23 sont issus de l'Union européenne, engagés dans une dynamique de réarmement à l'une des possibles désengagements européens, ont tous considérablement accru ce poste de défense. En 2024, 18 de 32 pays ont atteint l'objectif de 2% du PIB consacré aux dépenses militaires, inédit depuis la fondation de l'OTAN, indique Xiao Lian, chercheur au sein du programme dépenses militaires et production d'armes de cet institut de recherche. Face aux tensions internationales persistantes et aux incertitudes stratégiques, tout semble indiquer que les dépenses militaires continueront d'augmenter dans les années à venir et demanderont les efforts. La facture élevée aura un plafond impact socio-économique et politique, relève le chercheur, car les pays doivent faire des arbitrages dans leurs choix budgétaires. Par exemple, nous avons vu de nombreux pays européens réduire d'autres postes budgétaires, comme l'aide internationale, afin de financer la hausse des moyens consacrés à l'armée, ou encore envisager d'augmenter les impôts ou s'endetter, argue-t-il. Vous écoutez Radio B, la chronique de la Maison de l'Europe. Au moment de la sortie de cette émission, on est dans les périodes des fêtes du mois de mai, ma préférée. J'ai fait une petite recherche que je vais partager avec vous sur la fête du travail en Europe. Inaugurée en 1889, la Journée internationale des travailleurs tire ses origines des luttes syndicales de la fin du 19e siècle. Quels sont aujourd'hui les pays européens qui le commémorent? Le 1er mai est-il férié dans tous les États membres? En 1886, le 1er mai, date de Moving Day qui marque le début de l'année comptable des entreprises, est choisi par les syndicats ouvriers américains pour revendiquer la journée de 8 heures, selon le slogan 8 heures de travail, 8 heures de sommeil, 8 heures de loisirs. À Chicago, une grève massive dégénère au bout de 3 jours. Après l'explosion d'une bombe qui tue 7 policiers, les forces de l'ordre tirent sur la foule et entraînent la mort de 4 à 8 personnes, en blessant des dizaines d'autres. Plusieurs anarchistes sont condamnés à mort ou à la prison à la suite de ces événements. En 1888, la deuxième internationale socialiste qui se tient à Paris décide d'instaurer un jour de manifestation le 1er mai pour réduire la journée de travail à 8 heures. La décision est prise à l'occasion du centenaire de la Révolution française, mais aussi en hommage aux syndicalistes américains. La première journée internationale des travailleurs a ainsi eu lieu en 1890 dans plusieurs pays du monde. En France, la manifestation en 1891 est marquée par le drame de la fusillade des fourmis dans le Nord, qui se solde par la mort d'une dizaine de manifestants, dont des enfants. Après le vote de la journée de 8 heures en 1919, le 1er mai est institué comme fête de travail et de concorde sociale, sous le régime de Vichy en 1941, puis devient officiellement une journée chômée en 1847. C'est aujourd'hui en France le seul jour férié également chômé, c'est-à-dire où le repos est obligatoire. Au fil des années, le 1er mai s'enracine dans la culture politique et sociale européenne, comme journée de lutte et de solidarité ouvrière, avec des revendications qui s'étendent progressivement à d'autres droits sociaux. La journée est peu à peu reconnue comme jour férié dans de nombreux pays, devenant un symbole de la conquête des droits sociaux et du mouvement ouvrier européen. Alors, comment est célébré le 1er mai en Europe? Héritage de lutte du 19e siècle et début du 20e siècle, le 1er mai possède une véritable portée mondiale. La Journée internationale des travailleurs est célébrée dans la plupart des pays du monde et dans de nombreux États. Elle est reconnue comme jour férié et chômé, donnant lieu à d'importantes manifestations et rassemblements de mouvements ouvriers. Au sein de l'Union européenne, le 1er mai est férié dans 24 des 27 États membres. En Irlande, le jour du travail, May Day ou Labour Day, a lieu le premier lundi du mois de mai, soit le 5 mai en 2025. C'est aussi un jour férié. Le 1er mai est obligatoirement chômé dans 3 pays de l'Union européenne, sauf pour les activités ne pouvant être interrompues par des raisons organisationnelles ou de services publics, l'Espagne, la France et la Pologne. Aux Pays-Bas et au Danemark, le 1er mai n'est ni férié ni chômé, ce qui n'empêche pas les tenues de manifestations politiques et de défilés dans les nombreuses villes. En Pologne, durant la période de l'URSS, le 1er mai donnait lieu à des grandes fêtes populaires et défilés orchestrés par des partis communistes. Au début des années 80, d'importants mouvements de grève, organisés notamment par la Fédération des syndicats Solidarnost, sur les chantiers navals de Gdańsk, ont donné une dimension nouvelle à cette journée de lutte. En Italie, la fête du travail est célébrée en musique. Depuis les années 90, les principales forces syndicales italiennes organisent chaque année un concert sur la Piazza San Giovanni à Rome. Dans les pays scandinaves, le 1er mai coexiste avec des fêtes plus traditionnelles, marquant l'arrivée du printemps. En Finlande, à côté des défilés des travailleurs, le Vapaaehto est célébré à travers tout le pays. Idem en Suède, où des grandes manifestations étudiantes ont lieu. C'est aussi le cas en Grèce, où la fête du printemps prend ses racines dans l'Antiquité. Vous écoutez Radio B, la chronique de la Maison de l'Europe. j'ai eu la chance de prendre interview avec une bénévole active à la Maison de l'Europe, Françoise Prudent, sur son voyage inattendu à Bruxelles. On va l'écouter ensemble.
Oui, bonjour Françoise.
Bonjour Théo.
Je sais que ça fait un petit moment que tu es allée à Bruxelles. Mais ce n'était pas vraiment pour le loisir, mais pour le travail.
Oui.
Tu peux me rappeler, s'il te plaît, c'était dans quel cadre?
Oui, alors effectivement, c'était dans le cadre du travail. C'était organisé par la Commission européenne et c'était une journée et demie, j'allais dire, d'information pour les élus. Qui étaient sollicités pour en apprendre un peu plus sur l'Europe et ses objectifs.
D'accord, ok. Et pourquoi ça existe ce dispositif? Ça s'appelle comment?
Alors ça s'appelle l'Europe des communes. Voilà. Et alors, en fin de compte, c'était adressé aux élus parce qu'il y a eu un constat qui était que 85% des élus locaux se déclaraient peu ou mal informés sur le rôle et les prérogatives de l'Union européenne.
Ah d'accord, ok. Et voilà, comment ça s'est passé? Vous avez pu visiter quel endroit?
Oui, alors on a visité plusieurs structures européennes, mais notamment le Parlement européen. Donc voilà, c'était donc très intéressant, au-delà effectivement des conférences, des réunions qu'on a pu avoir tout le long.
Ok, c'était sur quelle thématique?
Alors, on a vu plusieurs choses, on a repris un petit peu les dispositifs qui existaient, connus et moins connus. Alors Erasmus est souvent effectivement le plus connu, mais aussi sur le corps européen de solidarité qui concerne plutôt les jeunes. Et puis on a aussi découvert, enfin pour la plupart d'entre nous, qu'il existait des subventions, des cofinancements, comme un fonds social européen, un développement dans le milieu rural, aussi des cofinancements en culture, enfin beaucoup de choses, beaucoup de financements qui existent et qui sont, je le répète un peu, mais qui étaient inconnus ou méconnus par la plupart des élus locaux qui étaient avec moi.
D'accord. Ok, ça a dû être enrichissant. Alors, tout ça, vous avez pu apprendre.
Oui.
Peut-être vous allez aussi passer l'information à vos collègues après par la suite.
Oui, bien sûr. Le but, effectivement, c'était qu'on transmette aussi. Nous, on était trois. Hein. J'étais avec deux de mes collègues, mm-hmm. Qui représentaient donc la ville de Bourg-en-Bresse. Mais il y avait des gens de toute Auvergne-Rhône-Alpes. Hein. Il y avait des représentants partout. Et effectivement, on nous a demandé de transmettre tout ce qu'on a appris, que ce soit effectivement sur les dispositifs ou sur les objectifs de l'Europe, qui reprennent les grands thèmes comme le pacte vert, le social, et puis quelque chose, j'allais dire pas de nouveau, mais qui est un petit peu plus suivi maintenant, et on sait pourquoi, c'est la sécurité.
D'accord. Ok. Et pour terminer, tu as peut-être un message à faire passer. Peut-être il y a,
oui.
On peut se renseigner plus sur ces informations.
Bien sûr. Donc ils nous ont effectivement donné des liens qu'on peut transmettre. Mais il y a quelque chose de très très bien, c'est la newsletter qui est sur l'actualité européenne, qui est très très riche, qui reprend beaucoup d'informations, toutes les nouveautés. Enfin, c'est vraiment très bien. Il y a des rencontres. Il y aura sûrement d'autres possibilités de retourner ou à Bruxelles ou à Strasbourg ou quelque part. Et puis, plus localement, j'allais dire, il y a la Maison de l'Europe et des Européens qui se trouve rue du Docteur Roux à Bourg-en-Bresse et où, effectivement, on peut aussi venir chercher plein d'informations. Je peux juste ajouter qu'on y est très bien reçu.
Bien sûr, oui. Merci beaucoup, Françoise, pour ton témoignage. C'était très intéressant.
Merci.
Vous écoutez Radio B, la chronique de la Maison de l'Europe. Merci à Françoise pour ce témoignage vraiment intéressant. Alors, pour terminer, je vais vous poser une question pour notre quiz. Dans quel pays européen la fête de travail n'est pas un jour férié? Vous pouvez toujours répondre par mail. Petit rappel, le mois de mai est le joli mois de l'Europe et la Maison de l'Europe et des Européens vous a préparé plusieurs activités, conférences, soirées, balades, etc. Rendez-vous sur notre site internet pour vous inscrire. Alors, nous avons exploré aujourd'hui la fête du travail en Europe et avons entendu témoignages sur le voyage à Bruxelles des élus. Le mois prochain, nous redécouvrirons la politique de la protection des droits LGBT en Europe à l'occasion du mois de la Pride. Ne manquez pas ce rendez-vous. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute et merci à ma chère invitée. À très bientôt sur Européen.
Symbolic of their desire to solve their nation's problems jointly, they are seated side by side, together.
Seguito arriva il sabato sera, e allora è stato possibile sistemare.
Schumann is speaking.
L'Europe ne se fera pas d'un coup. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait.
Le marché commun du charbon et de l'acier devenait une réalité.
Vous écoutez la chronique Européen, une émission par mois pour décrypter l'Union européenne ensemble. Institutions, politiques, fonds européens et leur impact sur le quotidien. Tout ça avec l'association Maison de l'Europe et des Européens de l'Inde.